vou falar português, temos tradução simultânea português-francês e francês-português. Queria começar por dar as boas-vindas ao Parlamento Português e à Comissão de Assuntos Europeus, ao Sr. Ministro Bernard Cazeneuve, dizer que estamos perante uma delegação representativa da Comissão. Infelizmente, tendo em conta o dia, hoje é o início de terminaram já os trabalhos parlamentares, e não tínhamos reunião de toda a Comissão, mas temos a representação dos dois maiores partidos na Assembleia da República. Estou eu próprio Presidente da Comissão, Paulo Mada Pinto, Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, Coordenador do PSD, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Vitalino Canas, Coordenador do PSD na Comissão, e Sr. Deputado Jacinto Serrão, do PS, ambos do Partido Socialista, peço desculpa. E queria começar por lhe dar as boas-vindas a esta Comissão. Dizer que a Comissão de Assuntos Europeus acompanha o processo de construção e de integração europeia. Temos tido contactos com alguns homólogos, designadamente da Comissão de Assuntos Europeus do Senado e do Parlamento francês, quer bilaterais, quer no quadro da COSAC. Queria dizer que a Comissão de Assuntos Europeus tem também acompanhado a evolução mais recente, designadamente a situação de crise da integração europeia, na zona euro também, e as tentativas de resposta que se têm dado, ou que se têm tentado dar nesse sentido. Portanto, a Comissão do Parlamento Português que acompanha diretamente essas matérias, embora hoje em dia os assuntos europeus e os assuntos nacionais estão tão imbricados, tão interligados, que grande parte do diálogo político acontece também no próprio plenário do Parlamento Português. Nós temos audições previstas e que já tiveram lugar antes de cada Conselho com o Primeiro-Ministro no Parlamento, no plenário do Parlamento, audições depois dos Conselhos com os membros do Governo que está presente, que dá conta e explica as posições portuguesas e o que aconteceu no Conselho. Eu penso que hoje um denominador comum das posições dos maiores partidos representados no Parlamento Português, que existe um problema de capacidade de atuação, de tempo, de rapidez e velocidade de atuação e de resposta aos acontecimentos que precipitaram e que continuam a aprofundar um ambiente de crise económica e financeira, sobretudo na zona euro. Nesse sentido, gostava de dizer que nós, defendendo sempre o método comunitário e, portanto, a definição num quadro multilateral de políticas, nós apreciamos os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos também pela França, que é um país que, pelo seu papel central, é incontornável no contributo para a solução desses problemas, para políticas que permitam não só a consolidação orçamental e financeira, mas também retomar o crescimento. E nós sabemos, até pelos laços históricos e de proximidade com tantos portugueses que existem em França, com os laços que existem entre os nossos dois países, que a França compreende a posição do meu país, do nosso país, na tentativa de cumprir simultaneamente os compromissos que assumiu, mas também de conseguir relançar a economia, evitar, portanto, sair de uma situação de recessão, evitando o seu aprofundamento, que é, no fundo, conciliar estes dois objetivos é o mais difícil. Eu gostava de dizer que nós entendemos que temos vindo a cumprir e tem sido atestado em várias revisões do memorando de entendimento os compromissos que assumimos com a Troika ao abrigo do programa de assistência. Isso tem sido, por vezes, difícil, temo-lo feito num ambiente de consenso, embora aqui e ali com algumas divergências, mais pontuais, mas que se têm manifestado, sobretudo, em alguns pontos em que tem havido algumas revisões do memorando originariamente assinado, ou em que as políticas levaram o governo a entender que devia ir além ou devia, enfim, fazer esforços adicionais no sentido da consolidação orçamental. Mas eu, apesar disso, gostava de dizer que acho que é um diagnóstico relativamente equilibrado da situação portuguesa, dizer que tem havido um consenso muito amplo, designadamente entre estes dois partidos que aqui estão representados, um no governo e outro na oposição, e que esse ambiente de consenso nos tem distinguido até da situação noutros países. Penso que é um ativo muito importante, enfim, que é conhecido no estrangeiro também. Enfim, eu, como Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, queria só renovar as boas-vindas, dizer-lhe que, enfim, estamos na expectativa de ouvir também o seu contributo e as suas propostas. Eu não sei se o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista, pretende usar a palavra, o Sr. Deputado António Rodrigues, talvez primeiro desse brevemente a palavra aos presidentes dos partidos para depois, então, Sr. Ministro, passar a palavra. Por favor, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que nesta altura se justifica uma saudação inicial ao Sr. Ministro, ao Sr. Embaixador, à delegação presente. Infelizmente, creio que o Sr. Ministro tem tempo limitado. Porventura também da nossa parte, pelo menos da minha parte, existe bastante limitação de tempo nesta altura. Não sei se não terei mesmo de sair nos próximos minutos. Mas queria deixar aqui ao Sr. Ministro do Governo francês uma palavra da parte do Partido Socialista Português, de esperança no novo governo francês, no novo presidente francês. Não é segredo nenhum que o Partido Socialista Português tem acompanhado com muita expectativa a evolução francesa. Queria, aliás, apoiar aqui as palavras já ditas pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Embora sejamos de partidos diversos, creio que as palavras que deixou correspondem e retratam com fidelidade aquilo que é o ambiente político em Portugal, designadamente um ambiente de consenso sobre as grandes questões da evolução europeia que tem havido ao longo das décadas em que Portugal já leva de permanência na União Europeia. Esse consenso mantém-se basicamente sobre as questões essenciais. Existem algumas divergências sobre alguns aspectos do aprofundamento da União Europeia no momento presente, designadamente a resposta da União Europeia em relação à crise. Gostaríamos de ter mais tempo para conversar com o Sr. Ministro em relação a isso, porventura não haverá esse tempo. Mas salientaria aqui, pelo menos, dois aspectos que me parecem, neste momento, essenciais, que o Partido Socialista tem realçado e sublinhado como sendo essenciais, aspectos onde, porventura, não existe o tal consenso, mesmo do ponto de vista interno, tal como também não existe ao nível europeu. No momento em que mais episódios se têm amontoado que mostram que é necessária uma resposta robusta, musculada da União Europeia, entendemos que existem novos caminhos que têm de ser trilhados. Tudo o que está a passar-se em torno de Espanha, em torno da eventual solicitação de um resgate de Espanha global, como se tem dito, nos próximos tempos, mostra, e a resposta que está a ser dada em relação a isso, ainda agora ouvimos notícias de que, porventura, a Alemanha não estará de acordo com a possibilidade de Espanha solicitar esse resgate, tudo aquilo que se está a passar, de facto, demonstram que temos de ter respostas mais robustas em relação àquilo que a Europa poderá fazer para enfrentar a crise. Em Espanha, aquilo a que assistimos é um Estado-membro que tem uma dívida menor do que a dívida alemã, que teve mais superávites nos últimos anos do que a Alemanha e, contudo, está a ser objeto de mais um ataque dos chamados mercados em relação à sua dívida soberana. E, porventura, será obrigada a pedir esse tal resgate de natureza global, para o qual a Europa neste momento não tem recursos. Não tem possibilidade de enfrentar esse pedido de resgate com eficácia, creio eu. E, portanto, isso implicará que nós olhemos para os mecanismos que existem, designadamente para o FEF e para o Mecanismo Europeu de Estabilidade, verifiquemos se ele tem ou não capacidade de responder a uma crise como aquela que a Espanha e a Itália poderá vir a enfrentar. E se calhar não tem. E se calhar é necessário, por exemplo, atribuir ao fundo uma licença bancária que lhe permita ter acesso a recursos mais extensos do que aqueles de que dispõe atualmente, designadamente ter acesso direto ao Banco Central Europeu. Por outro lado, há também a questão da mutualização da dívida, que é talvez uma questão de mais longo prazo, que requer se calhar um debate e maior maturação, mas o Partido Socialista também tem insistido nessa necessidade. E temos falado da necessidade de haver um pacto, um ato adicional ao Tratado Orçamental, no sentido de consagrar todos estes mecanismos. Gostaríamos de ter a possibilidade de ouvir o Sr. Ministro sobre isso, não sei se terá tempo para se pronunciar, haveria naturalmente outros temas que poderíamos aqui referir, mas não queremos retirar-lhe a oportunidade, porque é para o ouvirmos que estamos aqui, não queremos retirar-lhe a oportunidade também de se pronunciar sobre esses temas. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua vinda a Portugal neste momento tão importante para nós.
Sr. Ministro, Sr. Embaixador, aproveitava para dizer que se juntou, entretanto, a nós também a Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD de Madeira, e passo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é uma honra tê-lo aqui presente, principalmente porque teve o cuidado de incluir na sua viagem uma visita ao Parlamento Português e não se limitou a visitar os membros do Governo e, portanto, isso é um reconhecimento também da relevância que dá ao Parlamento. Por isso, saúdo também a delegação francesa, a começar pelo Sr. Embaixador, que connosco tem mantido um diálogo político muito relevante e muito interessante na troca de impressões que têm ocorrido relativamente à situação política, quer portuguesa, quer francesa. E não deixamos de realçar isso, porque a situação francesa, por força das eleições, mudou, a posição francesa mudou, e é importante podermos acompanhar, e também o governo francês poder acompanhar, aquilo que acontece reciprocamente nos nossos dois países, uma vez que ambos somos membros da União Europeia e ambos trilhamos os mesmos caminhos nos termos da integração europeia. E para nós isso é muito importante, particularmente porque temos uma perspectiva não partidária, mas de Estado relativamente às questões europeias, no sentido de que é importante caminhar conjuntamente para resultados iguais e porque buscamos objetivos semelhantes e não queremos trazer para aqui as pequenas tricas e as pequenas discordâncias partidárias quando o que está em questão é construirmos o nosso futuro comum. Futuro comum que passará, em nossa opinião, pelo reforço do euro e dos Estados que fazem parte da zona euro, o reforço por aquilo que têm sido as medidas tomadas, nem sempre de uma forma suficientemente forte por parte da União Europeia, mas para o qual temos tido posições muito semelhantes e que são importantes continuar a consolidar. Nomeadamente, e era uma das questões que deixava em cima da mesa, porque sei que é e faz parte do debate político francês, como faz parte do político português, as questões relativas à ratificação do Tratado Orçamental e aos mecanismos de estabilização económica, que são instrumentos fundamentais para a consolidação daquilo que têm sido as decisões europeias. No resto, assinalamos, e julgo que, de uma forma relevante, aquilo que tem sido os esforços do governo francês relativamente a introduzir na agenda europeia as matérias do crescimento. São questões que têm sido vistas muitas vezes de forma incorreta ou inadequada em cada um dos Estados, porque obviamente o crescimento é um objetivo de todos nós, embora nem sempre numa perspectiva idêntica, mas obviamente com um resultado igual visto politicamente por todos nós. Sr. Ministro, como dizia, é importante a sua visita, reconhecemos o gesto que teve de vir ao Parlamento também para se inteirar da posição dos partidos relativamente às questões europeias, e julgo que a melhor mensagem que lhe podemos transmitir é o nosso empenho em continuarmos a construir o mesmo caminho europeu que todos nós pretendemos, pese embora possa haver sensibilidades muitas vezes diferentes, mas o objetivo será sempre o mesmo. Muito obrigado, mais uma vez, saúdo a sua visita ao nosso Parlamento.
Sr. Ministro.
Monsieur le Président, Madame le député, Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord vous remercier très chaleureusement pour votre accueil ici au Parlement, pour le temps que vous me consacrez dans une période particulière de vos travaux parlementaires. Vous dire également mes regrets que ce temps soit contraint. Je pense qu'un échange approfondi avec vous aurait justifié que nous passions ensemble davantage de temps. Mais cette visite est une visite trop courte à mon goût, qui de surcroît est un peu obérée par du retard ce matin de l'avion qui me conduisait à Lisbonne. Et je suis convaincu que cette visite en appelle d'autres, et que nous aurons l'occasion de nous revoir, de nous reparler, d'approfondir l'ensemble des sujets que nous avons à l'ordre du jour de cette rencontre, qui me conduit à vous voir à l'instant, après avoir passé un long moment d'échange avec mon homologue ministre des Affaires européennes portugais, et avant de rencontrer d'autres responsables gouvernementaux. Et nous sommes, comme vous l'avez souligné, dans une situation très particulière de crise, crise très profonde, qui résulte de dérèglements anciens et qui pose le problème de la solidité de ce que nous avons construit ensemble, l'euro. Une monnaie commune, ça n'est pas rien dans un espace de libre-échange qui ne recouvre pas d'ailleurs la totalité de l'espace de la zone euro, qui va bien au-delà, et qui pose aussi des problèmes politiques, et qui sont de deux ordres. Des problèmes politiques de coordination entre les États de la zone euro, de l'Union européenne, face à la crise. Vous avez posé vous-même le problème de la temporalité, du rythme, du temps que nous impose la crise au regard du temps de nos prises de décision. Il y a là un décalage qui peut apparaître comme préoccupant. Nos sommets prenant des décisions qui, quelques jours après que les sommets ont eu lieu, sont ébranlés dans leur fondement, ces décisions, par les signaux que nous envoient les marchés. Et il semble que nous intervenons toujours trop tard, avec des mesures insuffisamment significatives face à des marchés qui surréagissent parfois en envoyant des signaux qui sont très en décalage par rapport à ce qu'est la réalité de la situation économique des pays qui sont affaiblis par les turbulences des marchés. Je voudrais également insister sur le fait que cette crise de la zone euro qui se poursuit, qui se développe, conduit un certain nombre de fractions de nos opinions publiques à exprimer à l'égard du projet européen de l'hostilité ou du scepticisme. Et que souvent, cette expression de scepticisme ou d'hostilité à l'égard du projet européen va de pair avec une défiance à l'égard de la démocratie, de ses institutions, de la manière dont nous fonctionnons pour faire face à la crise. Donc, il y a une crise économique et financière profonde, il y a une crise politique qui s'y ajoute et qui peut remettre en cause jusqu'au fondement même des valeurs qui nous rassemblent par-delà les spécificités de nos pays. C'est donc une situation très sérieuse, très grave, qui doit nous conduire autant que faire se peut, par-delà les différences qui existent entre nos organisations politiques lorsque nous sommes dans nos pays, et par-delà les différences qui peuvent exister entre nos pays, d'essayer de cheminer ensemble pour surmonter les difficultés et tenter de trouver des solutions. Ceci étant dit, je voudrais vous dire en quelques mots quelle est l'analyse que nous faisons de la crise, quels sont les vœux que nous formulons et les actions que nous avons engagées sous l'impulsion du nouveau président de la République française pour contribuer utilement au débat et tenter la réorientation de la politique de l'Union européenne en très étroite liaison avec nos partenaires. D'abord, nous considérons que il faut les disciplines budgétaires, que nous ne parviendrons pas à redresser l'Union européenne si nous ne prenons pas garde à créer les conditions tous du rétablissement de nos comptes. Et en même temps, nous considérons que le rétablissement de nos comptes n'est pas possible s'il n'y a pas de croissance. C'est la raison pour laquelle, pendant les derniers mois, nous avions pris, nous, socialistes français, pendant la campagne présidentielle, une position que nous maintenons après la campagne présidentielle en situation de responsabilité. Nous ne voulons pas ratifier le traité s'il n'y a pas des mesures pour la croissance. Et nous nous sommes employés, au cours des dernières semaines, à faire en sorte que dans nos échanges, ensemble, nous parvenions à mettre sur le métier la réorientation de l'Union européenne vers la croissance. Pourquoi est-ce que nous voulons à la fois le rétablissement des comptes publics et la croissance? Parce que sans le rétablissement des comptes publics, il y a des déficits qui se creusent, des dettes qui augmentent, qui font peser les déficits et les dettes sur les taux d'intérêt, une pression, une tension qui conduisent les taux d'intérêt à augmenter. Et il n'y a pas de croissance possible là où les conditions de financement de l'économie ne sont pas assurées dans de bonnes conditions. Donc il y a un lien entre le rétablissement des comptes publics et la croissance. On ne peut pas avoir la croissance s'il n'y a pas le rétablissement des comptes publics. En même temps, vous le voyez comme nous le voyons nous-mêmes, des efforts faits pour rétablir les comptes publics sans croissance, c'est la condamnation des peuples à l'austérité à perpétuité. Et nous ne voulons pas de cette politique. Parce que nous pensons qu'elle va aggraver la crise. La défiance à l'égard des institutions européennes et à l'égard de la démocratie. Donc nous voulons à la fois le rétablissement des comptes publics et la croissance. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous voulons des mesures concrètes pour la croissance. Les 120 milliards que nous avons tous obtenus ensemble, qui appellent 120 milliards d'investissements privés, parce que les 10 milliards d'euros de recapitalisation de la BEI qui permettront de faire 60 milliards d'euros de prêts auront pour contrepartie 120 milliards d'euros d'investissements privés. On ne finance jamais à 100% par des prêts les investissements privés ou les investissements publics privés susceptibles d'être financés par la BEI. Donc il y a une contrepartie d'investissements privés, des décisions que nous avons prises de recapitalisation de la BEI qui permet d'avoir 60 milliards d'euros de prêts. Les fonds structurels doivent être remobilisés. La première phase de Project Bonds, phase pilote, doit permettre d'engager autour des objectifs de l'Europe 2020 des projets qui permettent dans le domaine de la croissance verte, de la transition énergétique, de l'éco-construction, du développement de l'interconnexion des réseaux d'énergie, du transfert intermodal, du développement de la recherche, de l'innovation, bien des projets d'intérêt commun. Donc, ces 120 milliards, qui appellent 120 milliards d'euros d'argent privé, ce n'est pas un petit plan. Cette ambition de croissance doit être prolongée dans les réflexions que nous conduisons sur le budget dont l'Europe doit se doter pour la période 2014-2020. Nous considérons que les fonds de cohésion font de la croissance. Nous sommes par conséquent désireux de faire en sorte que le budget de l'Union européenne soit un bon budget. S'il doit être aussi un budget d'austérité, c'est-à-dire que si les 120 milliards que nous avons dans le plan, nous les prenons sur le budget de l'Union européenne en remettant en cause ce que nous faisons au profit de la cohésion, de la PAC, de la recherche, du développement, nous aurons non pas un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme négatif. Et en même temps, nous devons aussi tenir nos engagements devant la Commission en termes de respect de nos équilibres budgétaires. Par conséquent, il faut que la volonté d'avoir un bon budget avec une contribution significative nous conduise à mettre aussi en place une contribution raisonnable qui ne déséquilibre pas nos comptes. Donc, il faut trouver un équilibre. Ça, c'est pour la croissance. Des mesures concrètes et de bonnes perspectives budgétaires où le rapport cohésion-PAC n'est pas déséquilibré, où de la recherche est possible et l'innovation aussi. Deuxième point, il faut remettre de l'ordre dans le système financier. Nous considérons que les peuples n'ont pas vocation à payer à perte de vue les conséquences des désordres bancaires et financiers qui résultent de la capacité dans laquelle se sont trouvés les politiques de réguler le fonctionnement des marchés financiers. C'est la raison pour laquelle nous voulons des choses très précises sur lesquelles nous sommes mobilisés et nous nous battons. L'union bancaire qui doit garantir que nous serons capables d'assurer la stabilité du système bancaire en Europe, c'est-à-dire la capacité du système bancaire à assurer durablement le financement de l'économie réelle en Europe, plutôt que de s'aventurer dans des opérations hasardeuses de spéculation sur les marchés financiers dont on voit les conséquences qu'elles peuvent avoir, ces opérations de spéculation, sur l'économie réelle et sur le financement des entreprises. L'union bancaire, pour nous, c'est la supervision bancaire. Nous avons décidé qu'elle serait adossée à la BCE, mais nous devons nous assurer que le système de supervision bancaire dont nous parlons permettra bien la supervision de l'ensemble du système bancaire européen par-delà l'attention particulière qui doit se porter sur les banques qui représentent un risque systémique. L'union bancaire doit permettre la mise en place d'un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts. Nous n'avons, au terme du dernier Conseil européen, mis en place que la supervision bancaire. Les deux autres piliers de l'union bancaire ne sont pas encore là. Il nous faut créer les conditions de l'achèvement de l'union bancaire, comme un ensemble cohérent reposant sur ces trois piliers. Deuxièmement, il faut que nous ayons des dispositifs d'intervention sur les marchés qui puissent valoir pare-feu lorsque les marchés nous attaquent. Car finalement, lorsque les marchés nous attaquent, c'est la souveraineté de nos États qu'ils remettent en cause. Ce n'est pas simplement des désordres passagers qu'ils créent dans l'économie et la finance. C'est la raison pour laquelle il faut que le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité financière qui avait préexisté à ces deux systèmes, l'ensemble représente une capacité d'intervention d'à peu près 1 000 milliards d'euros, puisse être mobilisé dans l'urgence, dans les conditions qui vont bien, pour affirmer notre volonté que la spéculation ne gagne pas de terrain. Cela signifie concrètement que ce que nous avons d'ores et déjà décidé concernant les modalités d'intervention du mécanisme européen de stabilité financière doit être confirmé dans le cadre du calendrier acté. Pas de retard. Le mécanisme européen de stabilité doit pouvoir intervenir sur les marchés après que la supervision bancaire aura été mise en œuvre. Il doit intervenir tout de suite. Il doit intervenir tout de suite dès que la supervision bancaire est mise en œuvre, avec la fin de la séniorité du MES pour ce qui concerne l'Espagne et la possibilité pour le MES d'intervenir directement en recapitalisation des banques pour casser le lien qui existe entre dette souveraine et dette bancaire, qui est un lien très funeste qui oblige les États à devoir se financer sur les marchés à des conditions de taux assez difficiles, aggravant ainsi la charge de la dette qui leur incombe. Il faut également que le Fonds européen de stabilité financière puisse à terme intervenir sur le marché secondaire des dettes souveraines pour maintenir les taux, les spreads dans un corridor qui évite que ces taux ne s'envolent. D'ailleurs, en traduisant une réalité qui n'est pas celle de l'économie des États qui subissent l'effet de cette augmentation des taux. Mais il faut aller plus loin. Et nous pensons que la feuille de route sur laquelle travaille Herman Van Rompuy doit nous permettre d'aller plus loin. Alors ça veut dire quoi aller plus loin? Ça veut dire achever l'union bancaire, il reste les deux piliers. Ça veut dire réfléchir à des dispositifs de mutualisation de la dette. Les Allemands ont fait des propositions, les sages allemands, à travers le fonds de rédemption. Nous restons attachés aux eurobills, aux eurobonds, qui peuvent être un point d'aboutissement de l'intégration économique et monétaire. Et tout cela, bien entendu, doit être accompagné d'un processus d'intégration politique. Il faut les trois choses. Il faut un projet pour l'Europe, des instruments de solidarité dont on parle, et puis de l'union politique, parce que si on met en place des instruments de solidarité, on peut comprendre qu'un certain nombre de pays de l'Union disent « d'accord, mais tout ça doit se faire avec une intégration du dispositif de pilotage politique, des outils nouveaux dont nous nous dotons ». C'est assez logique, cohérent, et nous comprenons cela. Mais la position française est que l'intégration politique ne peut pas être un prétexte pour ne rien faire de ce qui est urgent, notamment en matière de solidarité. Et que l'union politique, de ce point de vue-là, ne peut pas être un préalable à la mise en œuvre des mesures urgentes et la mise en place de la solidarité. Si l'on dit qu'il faut d'abord l'union politique, d'abord l'assainissement, et après il y aura les outils de solidarité, nous prenons le risque de mourir guéri. Donc il faut qu'il y ait la solidarité, il faut qu'il y ait la capacité à répondre dans l'urgence aux difficultés de la crise, union politique ensemble. C'est ce que le président de la République française a appelé l'intégration solidaire. Et nous, nous sommes favorables à des progrès dans l'intégration politique, mais nous voulons aussi qu'on soit capable, dans l'urgence, de répondre à la crise et davantage de solidarité. C'est pour ça que nous allons contribuer, avec chacun va le faire, tous ensemble, mais la France le fera, à l'élaboration de la feuille de route d'Herman Van Rompuy, dont on souhaite qu'elle puisse, à la fin de l'année 2012, définir une trajectoire de solidarité et d'intégration qui montre au marché que nous sommes déterminés à sauver l'euro. Je voudrais conclure ce propos qui mériterait qu'on prenne beaucoup de temps ensemble en disant deux choses très précises sur la situation d'aujourd'hui. La France est déterminée à maintenir l'intégrité de la zone euro. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'un quelconque pays sorte de la zone euro en imaginant que la sortie de la zone euro d'un des pays de la zone euro permettrait d'assainir la situation pour tous les autres. C'est très clair. Nous nous battrons pour le maintien dans la zone euro de tous les pays de la zone euro, au premier rang desquels figure la Grèce. C'est une position très forte sur laquelle nous sommes très mobilisés. Nous le ferons parce que nous pensons que ne pas faire cela aurait des conséquences politiques très graves pour chacun des gouvernements qui se mobilisent en imposant des sacrifices à leur peuple, dont ils espèrent qu'ils permettront un retour à meilleure situation. Ce serait funeste en termes d'efficacité de nos décisions vis-à-vis des marchés, parce que cela signifierait, dès lors que nous laisserions tomber la Grèce, que tout ce que nous avons dit sur la volonté de la maintenir dans la zone euro était en carton-pâte, ce qui signifie que tout ce que nous dirons sur la suite, l'Espagne, sur l'Italie ou d'autres pays, ne sera pas cru par les marchés. Donc laisser tomber la Grèce, c'est se désarmer unilatéralement devant les marchés. Et ce serait politiquement, financièrement et économiquement aussi tout à fait dramatique, parce que une telle décision qui serait financièrement et politiquement funeste aurait des conséquences systémiques qui mettraient nos économies en extrême difficulté. Donc, nous sommes dans l'intégrité de la zone euro, c'est ça notre démarche, et nous ne sommes pas dans des logiques qui semblent se diffuser en certains endroits où la solution ce serait ça. Et puis deuxièmement, nous sommes aussi dans la volonté de faire en sorte que, pour ce qui concerne nos autres partenaires, nos autres amis, nous puissions dans l'urgence et dans l'été s'il le faut, hein, même si lorsque nous sommes en pleine crise dans l'été, il arrive que les institutions ferment, nous pensons qu'il faut maintenir ouvertes nos oreilles, rester ouvert à toutes les hypothèses, travailler sur tous les sujets pour être réactif. Parce que la crise ne va pas attendre la fin du mois d'août pour nous appeler à nos responsabilités. Les marchés ne connaissent pas la trêve estivale, ni la trêve des confiseurs, ni le reste. Donc nous sommes dans une situation particulière qui implique une mobilisation forte. Le président de la République est très mobilisé. Il est dans une relation constante avec ses partenaires de l'Union européenne pour trouver des solutions. Il le fait heure après heure. Il a eu encore ce matin un échange avec la chancelière allemande au terme duquel ils ont fait un communiqué commun pour bien préciser la volonté des deux pays de maintenir l'intégrité de la zone euro, ce qui, après la déclaration de Mario Draghi hier, est un deuxième signal qui est envoyé sur la volonté qui est la nôtre de ne rien laisser passer. Et ce qui s'est passé hier avec Mario Draghi montre qu'il n'est pas nécessaire de mobiliser des milliards d'euros en garantie ou en argent frais pour calmer les marchés. Il s'agit simplement de leur dire que dans la bataille qui nous oppose à eux, nous avons bien l'intention de les faire perdre. Le simple signal envoyé aux spéculateurs suffit à les calmer. De l'importance d'une bonne cohésion politique dans les périodes de crise entre ceux qui doivent affronter les crises en question. Voilà.
Sr. Ministro, agradeço de esta exposição. Ela confirma a grande sintonia e proximidade de pontos de vista e de propostas entre as posições dos nossos dois países. Em geral, nos pontos que referiu, mesmo também, por exemplo, quanto à necessidade de uma reflexão sobre as condições políticas para outros mecanismos, como a mutualização da dívida. E queria só destacar dois pontos, uma vez que temos tempo limitado. O primeiro, este último que referiu, em grande medida, temos realmente uma situação de crise que é de confiança, que não pode ser intensificada ou aumentada por um problema de credibilidade. Se e enquanto os mercados ou os especuladores, se quisermos, antevirem a possibilidade de uma alteração ou reconfiguração na zona euro, essa crise continuará e, portanto, precisamos de uma palavra forte, como aquela que referiu, de uma posição forte, como a que referiu ser a do governo francês e a que resultou ontem, por exemplo, do governador do BCE, para mostrar que não vale a pena esse tipo de ataque. Em segundo lugar, gostava de fazer uma referência também a um tema que interessa particularmente a Portugal, que é o tema dos fundos de coesão. Nós pensamos que este momento está, em certo, ainda em curso uma negociação, mas não é um bom momento para alterações que incluam previsões de desvios ou diminuições, de reduções desses fundos. Importa também ter em conta a situação de crise e que, para alguns países que têm possibilidades limitadas neste momento de investimento público, esses fundos estruturais têm um papel bastante relevante. Não queria deixar de deixar aqui esta palavra. E, Sr. Ministro, queria agradecer-lhe, Sr. Embaixador também, esta visita, esta presença e os pontos de vista que aqui nos deixou. Saio daqui um pouco mais confiante que, com essas posições também da República Francesa, conseguiremos superar a crise na zona euro e relançar a integração europeia. Muito obrigado. Não sei se pretende ainda usar da palavra, mas, por favor, se for o caso.
Juste un point, Monsieur le Président, concernant la mutualisation de la dette. Nous, nous considérons que nous n'avons, si nous demandons la mutualisation de la dette tout de suite, c'est parce que si nous ne la demandons pas pour maintenant, nous ne l'obtiendrons jamais. Voilà. C'est la position qui est la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que cette mutualisation soit inscrite dans la feuille de route de M. Van Rompuy, sous la forme d'eurobonds à terme, d'eurobills, s'il s'agit de mutualiser des dettes à court terme, ou d'un fonds de rédemption pour la partie de la dette supérieure à 60%. Nous savons très bien les problèmes que cela peut poser en termes de débat avec un certain nombre de nos amis, auxquels nous lie une relation ancienne que nous voulons approfondir et consolider, je pense aux Allemands, car le moteur franco-allemand, nous considérons que c'est fondamental. Nous y tenons beaucoup. Nous voulons approfondir la relation avec les Allemands en la rééquilibrant, en l'ouvrant à nos autres partenaires. Mais aucune relation ne se conforte sans que les choses ne soient dites. Les bons compromis s'élaborent à partir de positions qu'on exprime clairement. Nous souhaitons la mutualisation de la dette, des eurobonds à terme, et nous souhaitons que cela puisse être un élément de réflexion, de perspective, inscrit dans la feuille de route d'Herman Van Rompuy. Pour le reste, vous avez évoqué ce sujet, je vais en dire un mot, nous sommes très déterminés à faire ratifier devant le Parlement français le traité, accompagné du pacte de croissance, du dispositif concernant la supervision bancaire, et des perspectives de coopération renforcée autour de la taxe sur les transactions financières. Je sais que vous êtes favorable à cette taxe. J'espère que nous pourrons signer à neuf une lettre visant à l'établissement de cette taxe en coopération renforcée. Bien entendu, la question de l'affectation de cette taxe comme ressource propre à l'Union européenne, qui est un sujet auquel nous croyons et nous tenons, est une autre question. Il faut dissocier les deux sujets. On verra ensuite comment on affecte cette taxe, chacun. Bon. Ce qui est important, c'est qu'on puisse lancer cette taxe en coopération forcée. Et enfin, dernier point, nous sommes conscients du rôle très important des parlements dans ce processus. Partout où je vais en Europe, j'essaie de rencontrer les parlements pour dire l'importance du rôle des parlements dans le processus de redressement dans lequel nous sommes engagés. Je vais à chaque session au Parlement européen, chaque session. J'en compte les groupes, etc. Et à chaque fois que je me déplace dans le cadre de nos relations bilatérales avec nos amis de l'Union européenne, j'essaie de rencontrer les présidents des commissions, les parlementaires. C'est très important pour l'œuvre de redressement dans laquelle nous sommes engagés. Enfin, je voudrais conclure en vous disant le très grand respect qu'inspire à la France le travail fait de redressement fait par votre pays, qui est un grand pays dans l'Union européenne, qui fait un travail extrêmement courageux, avec un consensus fort entre les organisations politiques qui honorent votre Parlement, même s'il existe des divergences que je n'ignore pas. Le consensus est fort globalement entre vous et le travail très important que fait votre pays force le respect de la France.
Merci. Tínhamos ainda uma questão do Sr. Deputado António Rodrigues. Rapidamente, temos pouco tempo. Pedir-lhe que, muito brevemente.
Quero agradecer-lhe as suas palavras, Sr. Ministro. Significam muito também para nós, naquilo que é o trabalho conjunto dos dois países. Há uma pequeníssima questão que gostava de pôr. Não preciso de resposta, não quero resposta, mas deixar à sua consideração uma das nossas maiores preocupações neste momento, que é o facto que deriva... Não querendo construir uma Europa protecionista, entender que a Europa deveria caminhar em conjunto para uma maior força relativamente aos outros Estados fora do quadro europeu, nomeadamente naquilo que diz respeito às taxas aduaneiras. Nós hoje vemos, no âmbito do comércio internacional, que vários Estados assumem medidas não de reciprocidade na fixação de taxas aduaneiras, o que nos deixa preocupados até para poder exportar para fora da Europa. Deixar-lhe apenas esta nota de reflexão, porque temos um sentimento de que a Europa, muitas vezes, sob o signo do protecionismo, não toma as medidas necessárias para também defender e ampliar o comércio internacional.
Monsieur le député, nous sommes extrêmement sensibles à cette question. Et nous considérons que la bonne manière de faire du libre-échange et de la croissance pour tout le monde, c'est qu'il y ait de la réciprocité dans les échanges. Il ne peut pas y avoir de croissance à partir du commerce international si l'échange est inégal et conduit certains à protéger leur marché en intervenant sur les nôtres sans vergogne. Ce que je veux dire par là, c'est que si le vin portugais et l'huile d'olive portugaise ne peuvent pas aller vers le Mercosur, alors le Mercosur ne doit pas pouvoir faire venir le vin et l'huile d'olive du Mercosur au Portugal. Je pense être assez précis dans la réponse que je vous apporte, et je pense que sur ces sujets-là, nous devons pouvoir trouver des solutions qui permettent d'ouvrir les discussions avec le Mercosur, mais dès lors que sur ces sujets-là, il n'y a pas d'ambiguïté. La réciprocité, la garantie de l'échange équilibré et la garantie du bon libre-échange, qui profite à tout le monde. Sinon, c'est la désindustrialisation, c'est l'affaiblissement de l'économie de l'Europe. L'Europe ne peut pas être ouverte au grand vent du libéralisme et du libre-échange sans se protéger de ce que les autres font sans scrupule à l'égard de nos propres produits en les frappant des taxes que l'on sait. Donc ne vous inquiétez pas, monsieur le député, nous sommes sur ce sujet-là ensemble, totalement.
Obrigado, Sr. Ministro. Queria remercier de cette visite, de cette dialogue, et vous souhaiter un bon séjour à Portugal.
Merci beaucoup.